Chaque jour, la fréquence de la paix unit le Congo avec le tour des provinces. Du nord au sud et des grands lacs à la mer, Radio Capi en direct de toutes les provinces. À 8h45, 12h15, 17h20 et 17h50, heure de Kinshasa. Le tour de province, vivez les informations avec les reporters de Radio Capi.
Comment promouvoir le bien-être en milieu professionnel? Vous savez, beaucoup d'employés ne travaillent pas dans des bonnes conditions, pas d'infrastructures adéquates ou équipements nécessaires pour mieux prester, pour mieux faire leur travail. Par ailleurs, ils subissent toutes sortes de pressions de la part de l'employeur. Celui-ci attendait des résultats performants, mais il n'offre pas des conditions, pas des moments de détente ou de convivialité avec le personnel. Voilà, c'est des choses qui arrivent. Alors comment est-ce qu'on peut arriver à promouvoir le bien-être au sein d'une entreprise? Polydor Tangeli est psychologue de travail. Il est également secrétaire exécutif du groupe Mossala, groupe d'expertise en intervention psychosociale des travailleurs, des demandeurs d'emploi et des personnes désœuvrées. Alors Polydor, la première question est de savoir qu'est-ce qu'on entend par bien-être en milieu professionnel, particulièrement.
Merci, Jody, pour la question. Le bien-être, c'est un état de confort et d'harmonie que l'on a face à son environnement immédiat. Donc, le milieu dans lequel on est en train de prester. Et lorsqu'on renvoie cette notion au milieu du travail, il revient à dire, à parler de cet état d'équilibre et d'harmonie, de confort, si vous le voulez bien, qui se dégage lorsque l'individu, l'opérateur, à un poste donné, interagit avec son milieu. Au fait, ici, il faut rappeler que lorsque on a un nouveau poste, et du fait que ce poste contribue à l'acquisition de certaines valeurs, certaines valeurs d'ordre professionnel, on est salarié, on est tout ce que vous voulez, et on a un certain bien-être. Mais le travail lui-même peut vous faire perdre cet équilibre-là. Vous pouvez, sur base de votre travail, perdre votre harmonie, votre équilibre psychophysiologique.
Alors, quand vous parlez de bien-être, est-ce qu'on peut comprendre par là, par exemple, on vous nomme directeur, on vous donne une maison, vous avez une belle voiture, on vous met dans toutes les conditions pour donner le meilleur de vous-même.
Pour donner le meilleur de vous-même, pour que vous ayez un équilibre.
Vous avez un joli bureau.
Un joli bureau.
Bien, avec moquette, avec climatisation, tout ça.
Exactement, mais au fait, il faut pas ici réduire le bien-être au seul confort ou harmonie physique, puisqu'aussi le bien-être est lié à des facteurs d'ordre psychosociaux, d'ordre organisationnel, en milieu professionnel. Et on peut, à ce titre-là, avoir un bon bureau, des équipements bien adéquats, mais lorsqu'on est dans un contexte relationnel conflictuel, lorsqu'on est dans un contexte motivationnel peu recommandable, par exemple avec un salaire maigre, lorsque on est entouré des collaborateurs qui ne sont pas au même diapason que vous, cela peut contribuer à la détérioration de votre bien-être. Et malgré les conditions physiques, les conditions infrastructurales, les conditions matérielles qui sont vôtres, vous pouvez perdre votre bien-être.
Alors,
et ne pas produire le meilleur de vous-même.
Pouvez-vous donner des exemples, des cas concrets, des situations qui peuvent altérer le bien-être des travailleurs?
Les situations qui peuvent altérer le bien-être des travailleurs, c'est par exemple prester dans des conditions où on est exposé à des produits chimiques et des vibrations de grande envergure. Supposons que nous soyons dans ces studios, ces beaux studios de Radio Capi, et que les studios venaient d'être peints. Vous comprenez que le meilleur prestateur que je connais, je dis, ne saura pas produire le meilleur de lui-même. Pour autant qu'il va inhaler tout au long de ses prestations, une odeur qui ne pourra pas lui permettre de d'avoir son équilibre psychophysiologique. Voilà comment on peut perdre le bien-être. On peut aussi perdre le bien-être du fait des sollicitations pressantes où vous avez une surcharge de travail, vous avez un non-respect de la temporalité dans l'exécution des tâches. Ça peut aussi conduire à la perte de bien-être. Tout comme aussi, vous pouvez être harcelé, surtout pour les dames au plan sexuel par la hiérarchie ou par les collègues, et ça touche à votre estime personnelle, ça peut vous amener à perdre votre bien-être.
Donc, ça vous met dans un état inconfortable
et vous perdez l'harmonie avec votre environnement. Or, on ne peut bien produire le meilleur de soi-même que si on est en harmonie avec son environnement.
Et vous avez parlé aussi des conflits. Lorsqu'on est dans une situation des conflits, soit avec les collègues ou il y a des mésententes au niveau du travail.
Exactement, exactement. Les conflits ont un effet non seulement négatif, mais aussi positif. Mais ici, nous insistons sur les aspects négatifs du conflit qui ne permettent pas à la personne de produire le meilleur de lui-même, puisque une des conséquences du conflit, c'est la déliquescence des compétences. Du fait qu'on est en conflit, on oublie l'objectif à atteindre et l'adversaire fait partie des cibles, fait partie des objectifs professionnels que vous avez. Et là, ça vous désoriente. Vous ne savez plus identifier la priorité des priorités. Et surtout, si c'est un collègue avec lequel vous partagez le bureau, un collègue avec lequel vous êtes dans un même processus décisionnel ou processus opérationnel, ça fait que chaque fois qu'il vous vient à l'esprit, il vous amène à la déliquescence des compétences, ce qui vous fait perdre aussi votre harmonie avec le milieu ambiant. Et voilà, vous pouvez mal travailler à cause du conflit.
Nous avons en ligne Jean-Claude depuis Kindu. Nous parlons de la promotion du bien-être en milieu professionnel. Jean-Claude est à Kindu. Bonjour.
Oui, bonjour Jideka. Bonjour aussi à Monsieur Polydor Tangeli.
Bonjour.
Quelle est votre question?
Oui, ma question, c'est une petite contribution jeudi. D'après moi, je dirais qu'il est pratiquement difficile de travailler, d'avoir le bien-être dans les milieux sociaux, dans le sens que nous sommes en train de travailler dans un environnement faisandé où les cachets rois et la dame corruption est reine. Moi, je pense que tous ces facteurs, sinon tous ces paramètres-là, font à ce que nous ne puissions pas travailler aisément dans ce genre de conditions. Quand nous voyons aussi que notre salaire, les salaires par exemple dans les milieux professionnels ne contribuent pas, vous partez au boulot, vous êtes psychologiquement affecté et à la fin du mois, vous n'avez pas pu travailler. C'est juste ça, au moins ma petite contribution aujourd'hui. Bonne journée à Kinshasa.
Merci Jean-Claude et Kindu. Nous allons accueillir notre auditeur dans quelques instants. Polydor, qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à ce que vient de dire Jean-Claude?
En fait, sinon je ne serais pas venu, puisque moi je viens défendre la promotion du bien-être au travail.
Voilà.
En fait, ici, le message pédagogique que nous venons amener à nos auditeurs, c'est qu'on peut croire au bien-être et que au plan individuel tout comme au plan organisationnel, on peut promouvoir son bien-être malgré qu'on soit dans un environnement nocif, malgré qu'on soit dans un environnement qui ne permet pas le bien-être. Comment par exemple?
Comment le faire?
Il a évoqué au plan individuel, il a évoqué l'aspect salaire. En fait, il est question de comprendre ici que le salaire seul n'est pas un facteur motivationnel. Vous comprenez? Beaucoup de personnes, surtout les fonctionnaires, citons-les, ils ne vont pas au travail à cause du salaire. Si ça ne dépendait que du salaire, ils ne partiraient pas. Il y a certaines dimensions qu'il faut exploiter pour promouvoir le bien-être au travail, notamment, par exemple, les valeurs qu'on acquiert par le fait de travailler. Le fait que le travail vous donne une certaine identité, mais aussi...
Il n'y a pas que le salaire, hein?
Il n'y a pas que le salaire, mais il y a aussi la carrière à préserver. Vous comprenez? Et dès lors que on prend les salaires, on les combine à tous les autres facteurs d'ordre sociaux qui influent sur le travail de la personne, ça permet à ce que, malgré le modique salaire, malgré les conditions défavorables, un individu peut arriver à produire le meilleur de lui-même. Et surtout, on peut aussi promouvoir le bien-être au plan individuel en essayant de redynamiser ses talents. Vous comprenez? Puisqu'au fait, lorsqu'on a fait le choix d'une profession pour laquelle on a du talent, je pense que beaucoup d'autres éléments, hein, pourront être minimisés. Beaucoup d'autres éléments d'ordre socio-économique pourront être minimisés au dépens de la passion que l'on a vis-à-vis de son travail. Et les gestionnaires ont aussi une certaine responsabilité à ce titre de stimuler tous ces éléments qui, au-delà du salaire, influent sur le bien-être de la personne, c'est-à-dire assainir les conditions de travail,
oui,
assurer une réglementation propice, éviter le clientélisme, éviter le népotisme au sein du travail, éviter la mise en place des réseaux informels de fonctionnement, mmh, ce qui conduit à la déstructuration de l'entreprise. Donc on peut y croire. On peut croire au bien-être, contrairement à ces cas.
Dans certaines entreprises, il y a même des managers qui organisent des cérémonies où on va primer les meilleurs agents de l'année, par exemple.
Exactement, comme je l'ai dit si haut, il faut un dispositif qui stimule à la compétence, qui stimule l'émulation parmi les travailleurs. Et là, vous verrez que la récompense au-delà du salaire vient comme un élément additionnel qui vient compenser au déficit du salaire. Donc, au plan individuel, tout comme au plan organisationnel, on peut promouvoir le bien-être. J'invite mon ami Jean-Claude à y croire.
Bien, Karani nous appelle des Bukavu. Vous voulez également participer à cette émission de la vie au quotidien? Composez le 081-890-63-94. Écrivez-nous également à service@radiocapi.net.
Écho d'économie. Sur Radio Okapi, la vie économique du Congo a une vitrine. Écho d'économie. 18h15, heure de Kinshasa, un magazine qui prend la température. Les marchés, la vie des entreprises, le monde rural, des questions se posent, nous y répondons clairement. Les bonnes initiatives, une nouvelle idée, reportage sur le Congo qui bouge. 18h15, Écho d'économie, une émission de référence qui parle à tout le monde.
Comment promouvoir le bien-être en milieu professionnel? Au Capi Service reçoit aujourd'hui Polydor Tangeli, psychologue de travail. Karani est à Bukavu et Mogo nous appelle des Durba, dans les Hauts-Télé. Karani, bonjour.
Bonjour, Radio Capi. Ok, j'ai des préoccupations. La première année que j'ai voulu demander d'abord à notre invité quelle est l'importance du dialogue social dans les affaires où il y a conflit entre employés et employeurs dans les cas du salaire. Par exemple, lorsque un employeur recevait un salaire de 100 000 francs congolais, avant que le taux de change ne puisse pas varier, c'était plus que 100 dollars. Mais à ce moment-ci, ici, chez nous à Bukavu, 100 000 francs ne convient plus pour réaliser 100 dollars. Là, il y a des terrorisations. Alors, ça amène le conflit entre employés et employeurs. Mais une autre chose, j'ai voulu savoir, par exemple, pour un employé qui a ses employés dans une entreprise, mais malheureusement, il ne les donne pas la restauration directe toute la journée. Et après, il cherche un rendement le plus élevé. Qu'est-ce qu'il faut pour régler ce conflit? Merci.
Bien, Mogo, vous êtes à Durba, dans les Hauts-Télé, bonjour.
Oui, bonjour, j'ai dit, d'ailleurs, Kacha, mais j'ai fallu l'inviter.
Oui, quelle est votre question, Mogo?
J'ai une préoccupation, j'ai dit. Je suis secrétaire dans un bureau, mais nous ne sommes pas très bien sur le même diapason avec mon chef. Tout ce qu'il voit, c'est le travail. Le jour où vous faites de très beaux travaux, on ne vous apprécie pas. Et puis s'il y a une petite erreur qui se glisse quelque part, lui, il est le premier à crier. Et puis parfois, il peut programmer des voyages, et il fait des voyages, et il ne vous avertit pas, vous écoutez que demain, il est au Kenya ou bien par exemple. Finalement, moi, tout suis sur secrétaire, comment je vais me comporter? Parce que quand je me réveille le matin, aller au travail, moi, je me rends compte que là, je vais plutôt au calvaire. Bon, je ne sais pas finalement comment je vais me comporter face à mon chef qui ne voit que le travail, et non pas moi qui suis son agent.
D'accord, merci Mongo depuis Durban, Polydor Tangeli.
Voilà, il y a notre ami Karani qui veut savoir l'importance du dialogue social, étant donné que chez eux, il se pose un problème de hausse du dollar.
On paye 100 000 francs congolais. Et aujourd'hui, ça ne représente plus rien.
Ouais, ça ne représente plus rien. Et puis, bon, il a perdu son bien-être. Est-ce que le dialogue social est important? Il est très important. Il est très important puisqu'il permet à ce qu'il y ait une tripartite autour de la problématique de son salaire. Mais comment le promouvoir? Il y a certaines questions que je dois lui poser. Est-ce qu'il est affilié à un syndicat? Puisque cela passe par des structures bien en place qui font partie de qui composent le dialogue social. Il faut d'abord être affilié à un syndicat qui pourra activer la question. Et peut-être faire appel aussi à des structures organiques du gouvernement, comme l'inspection du travail, pour qu'ils viennent se rendre compte de ceci. Faut-il encore savoir si les 100 000 francs répond au SMIG? Donc, il y a un questionnement important sur la question posée, puisqu'au fait, il faut par ailleurs comprendre aussi si c'est un journalier ou c'est un monsieur à contrat déterminé. Donc, beaucoup de questions. Et moi, je me réserve de donner une orientation sans avoir tous ces détails-là. Mais cependant, j'ai dit, il y a nécessité d'avoir un dialogue social qui puisse concourir au bien-être du travailleur. Puisqu'au fait, si son employeur est en train de m'écouter, lorsque vous laissez les travailleurs dans des conditions telles que décrites par ces messieurs, vous n'allez plus obtenir le rendement que vous attendez de lui. Vous allez chosifier cette personne. Vous allez l'animaliser. Et lorsque vous animalisez une personne, vous touchez à ses besoins d'estime. Alors, n'attendez pas de lui un meilleur rendement. Aujourd'hui, si beaucoup d'entreprises ont fait faillite, c'est pas seulement puisque il y a pas eu des conditions favorables, c'est puisque la gestion du personnel n'a pas été une gestion humaine, une gestion valorisante, hein, et qui a conduit à ce que, touchés par leur estime personnelle, les employés se sont désengagés du processus opérationnel. Ils ont produit moins que prévu et de manière continuelle, on est arrivé à la faillite. Sa préoccupation par rapport à la restauration, oui, il est reconnu aux entreprises les charges sociales.
Est-ce que c'est l'entreprise qui donne à manger aux travailleurs ou chacun s'arrange pour prendre un casse-croûte à l'heure de la pause?
Ça dépend. Ça dépend du terme des contrats. Mais il est préférable que l'entreprise s'occupe des charges sociales. Puisqu'au fait, c'est la meilleure de façon du fait que, supposons que si tout le monde doit manger à sa manière, ce qu'il veut, quand il veut, où il veut. Ça ne va pas, ça ne marche pas. Voilà pourquoi certaines entreprises s'arrangent à créer des restaurants, bien qu'on peut se l'acheter.
À créer des restaurants.
On prévoit un cadre où Jody ne peut pas quitter ici pour aller chercher son shawarma qui ne sait pas où.
Ou aller m'aller ou à quelque part.
Vous imaginez la suite. Donc, des conditions de restauration comme ça, qui peuvent, dans certaines entreprises, elles sont prises totalement en charge par
l'employeur.
Mais pour chez d'autres, pour des raisons d'ordre socio-économique et des charges liées aux dépenses, au budget, on essaie de décentraliser ça, mais c'est inclus dans la rémunération du travailleur.
Ça fait partie du bien-être des travailleurs.
Ça fait partie du bien-être du travailleur, puisque je quitte ma maison, peut-être sans avoir mangé, puisque je peux pas manger à 4 heures, j'arrive à 7 heures, il est 12 heures, je dois me requinquer pour bien entamer l'après-midi. Mmh. Et si tel n'est pas le cas, il faut pas attendre de moi que je produise le meilleur de moi-même les après-midi. Je dois me refaire. Mmh. Voilà pourquoi j'ai dit ici, en amont, que chaque entreprise avait l'obligation de mettre un dispositif de déphasage. Pas seulement un déphasage d'ordre biologique, mais un déphasage d'ordre chronologique. Et c'est pendant ces déphasages-là que la personne se refait en mangeant, en se divertissant, hein, en essayant de faire autre chose que ce qu'il a fait depuis le matin. De sorte que lorsqu'il va revenir sur le travail, il revient avec du sang nouveau, mmh, avec un mental nouveau. Et
avec beaucoup d'énergie.
Beaucoup d'énergie, je veux dire.
On va accueillir, avant de répondre à Mogo, on va accueillir Chris Kankou de Lubumbashi et Mazarin de Kananga. Chris Kankou, vous êtes à Lubumbashi. Bonjour, et quelle est votre préoccupation? Oui, parlez un peu plus fort, Chris.
Oui, j'ai dit, si c'était qu'aujourd'hui, on me nomme directeur à la tête d'une entreprise. Et dans cette entreprise-là, je trouve des anciens très mariés, parce que moi, je suis encore célibataire. Ils sont bien mariés, et compte tenu de fait que je suis encore célibataire, ils vont commencer à m'étouffer en remettant en cause les ordres que je leur donne. Qu'est-ce que je peux faire pour promouvoir mon bien-être en milieu professionnel, pour donner les meilleurs de moi-même?
D'accord, merci. Mazarin de Kananga, bonjour, et qu'est-ce que vous avez à nous dire?
Oui, bonjour Jody, bonjour à tous les auditeurs de la Radio Capi.
Oui.
Oui, j'ai aussi une petite préoccupation, mais avant cela, je vais essayer un peu de rebondir dans le même sens que l'invité qui est au studio là-bas.
Oui.
Voyez, monsieur Jody, ici au Congo, si on parle un peu en termes de salaire, personne ne peut aller au travail. Mais juste lorsqu'on a besoin, ou soit on a envie de travailler, c'est juste pour un peu faire de sorte que l'on ne puisse pas perdre un peu son élan. Voilà, c'est au moins ça. Et aussi, je peux avoir une petite préoccupation à soumettre à notre invité. Des fois, je peux être dans une entreprise où à chaque fois dans mon bureau, je suis accompagné parfois de deux personnes. Et à chaque fois, on me calomnie auprès du chef par mes collègues qui sont avec moi dans le bureau. À chaque fois, ils disent de faux témoignages auprès du chef. Et parfois, moi, j'arrive à avoir des problèmes avec le chef. Comment notre invité peut me dire ou soit même me conseiller à travers cette situation? Et aussi la deuxième préoccupation est celle-ci. Quel conseil peut prodiguer notre invité à travers certaines personnes qui parfois, quand il perd son emploi, il trouve que parfois c'était parfois le diable qui a fait à ce qu'il puisse un peu perdre son emploi. Donc il doit s'éterniser à son emploi. Comme par exemple ici à Kananga, lorsque à l'université où moi j'évolue actuellement, lorsqu'on a changé le comité de gestion, voilà que le comité qui avait remplacé l'ancien comité avait trouvé des choses un peu banales au sein de leur bureau. Donc ils ont retrouvé dans les bureaux où pouvait habiter l'administrateur de budget et les autres, on a trouvé un peu des histoires un peu là banales. J'arrive plus à comprendre à travers cela.
Quelle histoire banale?
Je demande à l'invité s'il peut prodiguer un seul conseil à certains Congolais qui pensent que s'éterniser à l'emploi, c'est au moins leur avantage.
Merci
Mazarin. Beaucoup. C'est Mazarin Fomba,
Mazarin. Mazarin, vous parlez d'histoire banale, on ne comprend pas. De quoi s'agit-il?
Voilà, d'accord. C'était comme ça. Lorsqu'on a changé le comité,
oui,
le nouveau comité est entré dans le bureau, ils ont retrouvé une bouteille. À travers cette bouteille-là, ils ont retrouvé trois personnes au-dedans de la bouteille. Là, moi, je confirme parce que moi, j'avais vu aussi cela. Je suis étudiant de cette université-là, raison pour laquelle j'affirme. Le nouveau comité est entré dans le bureau, ils ont retrouvé une bouteille, au-dedans de la bouteille, il y avait trois personnes, quatre personnes comme ça. Et pour enlever cette bouteille-là, il faudra que l'on puisse appeler un chef coutumier pour qu'il puisse prendre la charge de cette bouteille-là et un peu la déplacer. C'est au moins ça, la situation que voilà. Moi-même, là, j'ai vécu.
On a trouvé des fétiches hein, dans le bureau du chargé de budget.
C'est grave, ça.
Voilà, c'était des fétiches, bien sûr.
Voilà, merci. José nous appelle des Kananga, bonjour.
Bonjour monsieur, bonjour à notre invité du jour.
Nous parlons de la promotion du bien-être en milieu professionnel. Qu'est-ce que vous avez à nous dire?
Merci beaucoup, j'ai bien suivi, j'étais à la radio depuis le début de l'émission. Mais j'ai un petit problème. Au niveau où nous sommes ici au Congo, il est difficile de parler de la promotion du bien-être professionnel. Car la première des choses, nous voyons que le taux du chômage ne fait qu'augmenter du jour au jour. Prenons le cas des enfants qui viennent de terminer ici, les nouveaux diplômés d'État. Les enfants ne feront rien. Ils demandent d'emploi. Pour aller dans des entreprises travailler, on va leur demander, il faut avoir au moins travaillé les expériences professionnelles, tout ça. Et ça joue aussi beaucoup pour tirer le chômage. Et aussi, le premier employeur de ce pays, c'est l'État. Si l'État a encore des problèmes, des arriérés, des travailleurs qui ne sont pas compris jusqu'à maintenant, a fortiori les privés. Les privés commencent maintenant à se surveiller, donc à avoir un peu une complexe. Pourquoi? Pour ne pas engager des gens, pour chercher des gens de la famille. Tout ça, c'est par rapport à la situation de l'État qui n'est pas normale. Si l'État organise, d'abord, lui organise bien la promotion de bien-être, et aussi les privés vont aussi comprendre, vont aussi prendre la valeur des gens qui travaillent. Merci.
Mwamba nous appelle de Kananga, non, plutôt, voilà, Marcel va nous le dire tout à l'heure, il est dans Kalemie, des Kambove plutôt, voilà. Mwamba, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste.
Nous parlons du bien-être au travail. Qu'est-ce que vous avez à nous dire?
Oui, je voulais donner ma contribution. C'est un sujet très, très intéressant parce que la notion de bien-être au travail, c'est une notion très complexe. Vous avez vu vous-même que l'intervenant, votre invité, vous a bien cerné le problème parce qu'il n'est pas seulement lié au salaire, comme il l'a dit. Il est lié aux individus, à l'espace, mais aussi au temps. Donc, c'est une notion qui évolue, qui n'est pas statique. Alors, nous pouvons dire que le bien-être, c'est l'opposé de la souffrance au travail. Lorsqu'il vous dit, effectivement, que le salaire ne suffit pas, c'est vrai. Vous pouvez augmenter le salaire aujourd'hui et demain, il ne suffit plus. Parce que les besoins sont illimités, mais les moyens limité. Mmh. Alors, dans le cas d'espèce, le dialogue social se fait au niveau du gouvernement, mais c'est beaucoup plus une négociation collective au niveau de l'entreprise qui est beaucoup plus directe entre les organisations sociales, les syndicats et l'employeur, mais aussi un dialogue permanent entre l'employeur et ses travailleurs pour qu'ils s'expriment, qui donnent leur vécu du bien-être, qui expriment de la manière dont ils reçoivent leur travail. Vous allez voir que la manière dont les gens, comme l'a dit votre invité, peut plaire à telle autre personne et peut ne pas plaire à une autre personne. Je donne un exemple. Lorsque vous avez un chef qui vous donne du travail, mais par la même occasion vous recevez deux ordres différentes, de deux chefs différents, déjà, l'absence de l'unité de commandement crée déjà une souffrance au travail. Lorsqu'il n'y a pas la motivation travailleur, pas seulement la motivation en termes pécuniaires, mais aussi en termes de félicitations et qu'il fait un bon travail, comme l'a dit parmi d'autres invités, cela peut être déjà un motif de souffrance au travail. Donc, l'idéal, c'est d'abord un dialogue direct avec le travailleur, pour qu'ils s'expriment, qu'ils donnent leur vécu quotidien. Mmh. Parce que l'organisation du travail est liée aussi à la culture du travailleur. La manière dont il conçoit, parfois ce qu'il appelle souffrance par le lien social, il peut l'accepter. Il y en a qui n'aiment pas porter un équipement de protection individuelle. Alors que sans un équipement de protection individuelle au travail, on ne peut pas vous recevoir. Prenez les mines, vous n'avez pas un casque, vous n'avez pas de bottes. On doit vous chasser au travail parce que vous êtes exposé au risque. Donc c'est tout ça. Donc c'est une notion très complexe qui se fait à deux niveaux. Au niveau d'abord de l'État, cette tripartite, comme l'a dit l'invité, c'est vrai, syndicat, employeur et l'État, pour humaniser le travail, améliorer les conditions de travail, bien redéfinir le SMIC, parce que 3 dollars aujourd'hui, je vous assure qu'il n'y a pas moyen de survivre avec 3 dollars par jour, qu'il y ait des contrats de travail, qu'il y ait une évaluation collective des risques professionnels, qu'il y ait un système de bonus pour motiver ceux qui le méritent. Ça, c'est au niveau de l'État. Mais de manière directe, il faudrait aussi dans l'entreprise qu'il y ait une culture de dialogue, d'échange, d'entretien.
D'accord.
Et c'est ça que nous n'avons pas.
Mmh. Merci beaucoup.
Nous n'avons pas. Notre culture, nous, Congolais, c'est commander et non être contribué.
D'accord. Merci pour cette contribution, Monsieur Mwamba de Kambove. Choukrani, vous êtes à Kindou. Bonjour. Et quelle est votre question?
Bonjour, je dis bonjour aussi à l'invité.
Quelle est votre question?
J'ai juste une seule question à poser à l'invité. J'aimerais au moins juste savoir, parce que il peut y avoir dans un bureau où un chef travaille. Or, dans ces bureaux, il y a des lois qui régissent en tout cas son entreprise. Donc au moins, s'il y a un tel groupe de gens qui travaillent ensemble, que leur chef, par exemple, commet une faute, mais vous verrez, je dis, les chefs là punit tous les groupes en général. Or, que vous savez que la sanction doit être proportionnelle à l'acte. Donc, je voudrais au moins savoir quel conseil que l'invité pourrait donner au caractère de ce genre-là.
Choukrani, vous avez un cas concret. Quel type de faute, par exemple?
Bon, par exemple, il y a eu les chefs des groupes, on lui a demandé de faire un rapport, mais les chefs a très mal fait ce rapport. Maintenant, quand le bailleur vient, donc punit tous les groupes en général, au lieu qu'il punisse au moins la personne où la charge a été déléguée. Mmh. Et quel conseil que l'invité pourrait donner à ces gens de pays? Merci beaucoup, Jody.
Je vous en prie, Polydor Tanguéli.
Voilà, merci. Il y a beaucoup de préoccupations. Nous commençons par la préoccupation de notre ami Mogo, qui dit son chef direct ne voit que le travail, il ne voit que ses missions, et il n'a aucune considération, aucune appréciation envers lui, Mogo. Et cela ne le conduit pas à bien-être. Évidemment, il a raison. Son chef pêche par un manque d'estime vis-à-vis de son collaborateur. Au fait, le dispositif que nous recommandons beaucoup dans le cadre de nos activités de valorisation des ressources humaines, c'est par exemple de récompenser, de faire à ce que vos collaborateurs puissent être co-bénéficiaires de butins que vous gagnez de vos missions. Puisque lorsque vous voulez aller à l'extérieur, les textes, la préparation de tous les documents, ce sont vos collaborateurs qui le font. Mmh. Mais quand vous partez, revenez ne fût-ce qu'avec une cravate, avec un petit parfum à remettre aux amis. Essayez de comprendre que tant qu'ils font mieux, lui sera aussi mieux et tout le monde le sera à chacun à sa proportion.
Tout le monde va trouver sa part.
Exactement. Mmh. Mais lorsque on doit être égoïste, ne pas penser aux autres, et là c'est un mal. Mais, comme l'a suggéré notre ami, nous l'avons aussi dit, de Kambove, il faut un dialogue. Et je donne ici un cas concret, c'est-à-dire les box de dialogue. Une entreprise qui veut interagir avec ses employés pour comprendre leurs soucis doit avoir des boîtes à lettres.
Des suggestions.
Des suggestions, voilà. Hmm. Voilà. Il y a un groupe stratégique qui essaye de traiter ça, qui fait le feedback avec l'entreprise. Mais si c'est deux blocs qui se retrouvent dans un même cadre de travail, là, le résultat sera chaotique. Notre ami Chris Kankou parle de... Il est chef, mais il est célibataire.
Il
trouve des vieux, tout ça.
Qui lui résistent. Qui ne veulent pas obéir à ses ordres.
Au fait, du fait du regroupement de personnes, il y a la notion de la ressemblance et de la dissemblance qui s'applique. Je dis, voyez un peu quand nous allons au deuil. Quand nous allons au deuil, les mamans ont tendance à aller où sont les mamans et les papas. Voilà. Donc nous sommes un peu
c'est comme ça qu'on est
un peu borné comme ça. Et quand les gens se rencontrent, si je suis un garçon, si je suis médecin, je vais chercher où sont les médecins, où sont ces... Voilà. Alors, quand vous arrivez dans un groupe et que vous êtes jeune, attendez-vous à ces comportements, hein, à cette comportementisation de l'équipe. Mais cependant, il est malheureux que ces phénomènes naturels puissent conduire à des conflits de générations. D'où il faut étouffer cet élan dans l'œuf. En réalité, comme il a trouvé des anciens qui ont travaillé avec les Belges et qui connaissent mieux que lui, il devait faire avec cette réalité, mais aussi avoir une méthode adaptée pour amener les anciens, hein, qui prétendent mieux connaître,
à ajuster leur vision de choses pour qu'ils soient au même
niveau. Qu'est-ce qu'ils doivent faire concrètement?
Par exemple,
ne pas leur imposer, leur donner des
ordres.
Non. Les
commander. D'abord, ce sont des aînés, il faut les commander avec tact, mais aussi les amener par une méthode qui leur fait comprendre les limites de leurs anciennes procédures. Par exemple, avec Monsieur Van der Burg, ils opéraient les gens avec tel bistouri, ils commençaient par arracher ceci, cela. Et lui vient de la faculté de médecine, il a appris de nouvelles technologies. Il va lui dire, voilà, nous avons appliqué la méthode la fois passée. Vous avez vu que la personne avait saigné. Aujourd'hui, moi, je peux essayer de vous d'appliquer avec vous
une autre
technique et vous verrez qu'il ne va pas saigner. Devant l'évidence, on ne discute pas, malgré son âge.
Oui.
Et il y a même de la sagesse africaine qui dit « Moi, n'a moqué à Beta Kambonda, mon colopé à Bina. » Alors, cette fois-là, le vieux, à Kobina, n'a yépé. Voilà. Alors, notre ami Mazarin parle de la résolution d'un problème de conflit. On est
des faux témoignages, on l'accuse auprès du chef et ça gâte le climat au travail.
Et le climat de travail. Mais je sais qu'il y a un musicien qui a dit « Lokuta, il y a qu'un... »
Ascenseur,
vérité, tout ça.
Vérité,
ça veut dire,
y a qu'un escalier.
Face au mensonge, il faut brandir la vérité. Et la vérité, vous devez la brandir par comment vous vous affichez.
Donc on peut porter des faux témoignages.
Des faux témoignages, mais il faut amener des contre-témoignages qui sont vrais et vérifiables. Voilà. Puisque lorsque vous faites face au faux témoignage par de vérité, même après avoir été révoqué pour des faux témoignages, on peut vous récupérer d'une manière ou d'une autre.
Voilà. Alors quand on dit il faut humaniser le travail, qu'est-ce que cela veut dire? C'est ce qu'a dit Mwamba dans son intervention. Il faut humaniser, donc l'employeur doit traiter les autres comme étant des êtres humains.
Des êtres humains, c'est-à-dire quoi? L'homme travaille comme un homme. Il ne travaille pas comme un cochon. Il a droit au repos, il a droit à des conditions favorables,
à
un équipement construit, requis et adapté pour son poste de travail.
Et il a droit au respect.
Au respect.
Parce qu'il est travailleur, on ne peut pas les piétiner, marcher sur les pieds.
Exactement, exactement. Il n'est pas comme un cochon ou une cobaye qu'on envoie comme ça. On doit les traiter avec estime.
Avec dignité.
Comprendre que bien qu'il est subalterne, il a une contribution dans les limites qui sont les miennes. Même si j'ai une expérience de 20 ans, ce jeune homme a une contribution pour l'efficacité de notre groupe. Il n'est pas un maillon faible. Il est un maillon digne d'occuper ma place. Il a des charges familiales. Il a une femme à la maison. Il a des enfants qui sont à sa charge, et je dois les traiter par rapport à ce qu'il est. Voilà, c'est ça l'humanisation. Et il a des projets professionnels, puisqu'aujourd'hui, je ne suis pas journaliste pour être journaliste, je m'imagine ce que je peux être après 20 ans, après 15 ans. Vous comprenez? Et l'employeur doit faire avec vos aspirations.
D'accord.
C'est ça humaniser le travail.
C'est ça humaniser le travail.
Oui.
Merci Polydor Tangeli. Alors vous êtes secrétaire exécutif du groupe Mossala. Pouvez-vous nous en parler avant de terminer? C'est quoi le groupe Mossala?
Au fait, le groupe Mossala est un groupe d'expertise en intervention psychosociale en faveur de travailleurs. C'est ce que nous faisons d'ailleurs. Nous essayons de valoriser les ressources humaines en milieu professionnel pour pouvoir permettre à ce que, comme vous l'avez dit, les personnes sachent comment travailler dans des conditions humaines. Nous essayons de diagnostiquer sur leur carrière, nous essayons de les sensibiliser au bien-être en milieu du travail, et nous assistons aussi les managers à valoriser les ressources humaines. Vous avez parlé j'ai parlé de demandeurs d'emploi, nous essayons aussi de les encadrer. Nous œuvrons dans le monde du travail, nous essayons de les encadrer à réaliser des projets professionnels réalistes et réalisables. Et à ce titre-là, nous les assistons à bien adresser des demandes, nous les assistons à pouvoir identifier les postes qui sont requis à leur profil. Mmh. Donc, c'est des interventions d'aide à l'emploi.
Alors, par quel numéro on peut vous joindre pour ceux-là qui veulent travailler avec vous?
Le numéro du groupe Mossala est le 09 99 6046 à la fin.
09 99 6046.
Mais on peut aussi nous joindre par voie électronique à groupe Mossala @gmail.com.
D'accord. On va terminer avec l'intervention de Yenga de Kisangani. Il dit ceci: outre les salaires, le milieu professionnel est aussi un espace d'épanouissement et d'estime de soi. L'homme a le meilleur de soi à donner. Mais dans certains services, les chefs ne développent pas les sens d'écoute pour permettre aux travailleurs de s'exprimer et de contribuer ainsi avec leurs idées au développement ou au bon fonctionnement de l'organisation. Cette attitude réduit souvent les travailleurs en silence, se sentant moins considérés comme des personnes qui n'ont qu'à recevoir des ordres et à exécuter. Pourtant, leurs idées aussi fortes meurent. Ils ont des idées qui meurent. Alors, cela ne permet pas la certitude, moins encore un climat de compréhension ou de confiance mutuelle à l'interne entre les chefs et ses subalternes.
Exactement. Mmh. Et qui vient renchérir ce que nous avons dit. Il faut un dialogue.
Un dialogue.
Et
voilà,
un bon dispositif, c'est les boîtes à lettres.
Voilà.
Plutôt que ça soit des dialogues comme ça frontales, des boîtes à lettres, et qui sont prises en considération.
D'accord. Merci.
Puis, il ne faut pas créer une entreprise pour la créer sans, quand vous n'avez pas les moyens d'assurer le bien-être à vos employés.
Merci, Polydor Tanguely, psychologue du travail. À la prochaine.
Merci, jeudi.